Vous écoutez RTL.
Bonjour, oui, bonjour à tous. C'est la curiosité, c'est jusqu'à 15h et c'est sur RTL avec Sidonie. Comment ça va, Sidonie?
Ça va très bien, Thomas. Bonjour, les curieux. Dans notre seconde partie de curiosité, on va s'intéresser aux tests ADN. Avec juste un peu de salive, vous pouvez découvrir vos origines et même vos prédispositions à développer certaines maladies. Vous verrez que c'est aussi passionnant qu'inquiétant.
Et tout de suite, l'histoire d'une salle devenue aussi légendaire que des stars qui s'y donnent en spectacle. Bienvenue à l'Olympia.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On est 28 boulevard des Capucines et c'est le plus beau music hall du monde qui est incarné depuis maintenant 50 ans par une idée de Bruno Cocatrix au départ.
La curiosité est un vilain défaut.
Cette fameuse façade avec les lettres lumineuses rouges qui changent tous les jours et où tout artiste rêve d'avoir son nom un jour.
Sur RTL.
Bonjour Jean-Michel Boris.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous avez été le directeur de l'Olympia pendant plus de 20 ans, mais alors votre histoire dans ce lieu, elle est beaucoup plus longue. 46 ans de votre vie. À quel âge et grâce à qui avez-vous été embauché à l'Olympia?
C'est une histoire de famille. Je suis venu un jour à Paris voir mon père, qui était divorcé de ma mère depuis quelques années. Et mon père m'a dit, écoute Jean-Michel, j'ai pas tellement le temps de m'occuper de toi, est-ce que tu accepterais d'aller finir ta période de vacances avec ta tante, c'est-à-dire Paulette Cocatrix. Donc je suis Bruno Cocatrix, venait d'ouvrir l'Olympia le 5 février 54, je suis venu en juillet 54, donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bruno Cocatrix qui me dit, et qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je lui ai dit, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu la même intention, c'est d'être médecin. C'est dans la famille, oui. Les gènes. Et il a discuté avec moi pendant des jours et des jours. Et puis, enfin, il avait un charme fou. Il est arrivé à me persuader que ça serait tellement mieux de venir travailler avec lui. Et surtout, il a trouvé l'argument. Il me dit, tu comprends, ta mère va supporter les frais de tes études pendant plus de 10 ans. C'est impossible. Il faut absolument que tu viennes travailler avec moi à l'Olympia. Mais l'Olympia n'était rien d'autre qu'un cinéma qu'il avait repris et il en avait fait un musical en février 54. Donc, la mythologie de l'Olympia, n'existait pas encore. Hein. Et donc, je suis venu là et il m'a dit, bon, bah, tu vas prendre un bleu de travail.
Vous avez commencé comme machinot, c'est ça ?
Comme machiniste, oui. Ouais. Il fallait connaître, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un théâtre.
C'était très différent, Jean-Michel Boris, l'Olympia, quand vous y travaillez, dans ces années-là, au tout début, ça ressemblait à quoi ?
L'Olympia, tout début, c'était d'ailleurs très difficile pour Bruno Cocatrix. Hein. C'est-à-dire que l'Olympia, c'était une échéance financière tous les jours. Parce que Bruno, avant d'avoir l'Olympia, avait fait une opérette à l'Alhambra.
Oui.
Qui s'appelait Le Chevalier Bayard, avec des vedettes considérables, puisqu'il avait Yves Montand et Henri Salvador, et Ludmilla Tcherina, qui à ce moment-là était aussi une vedette, et ça avait été un échec énorme.
Donc il avait des dettes ?
Il avait, voilà, exactement, il avait un gros paquet de dettes, et ce paquet de dettes, ben, lorsque ça marchait, on ne le sentait pas, mais lorsque ça ne marchait pas, eh bien, le trou s'agrandissait, donc ça a été très difficile pendant de nombreuses années. Mais Bruno Cocatrix, c'est un battant, c'est un homme formidable pour lequel j'ai amour et affection, et qui m'a tout appris.
Et on lui rend hommage aujourd'hui, il a disparu il y a 40 ans, le 1er avril 1979. Alors il y a énormément de stars qui ont vu leur carrière décoller, s'accélérer grâce à Bruno Cocatrix, par exemple Gilbert Bécaud, c'est une longue histoire de passion, d'amitié entre les deux hommes. Et pour Bécaud, l'Olympia, c'est vraiment presque une deuxième maison. Il a chanté l'Olympia justement dans ce titre en 93. Écoutez.
Je prie la vie pour un monde meilleur.
Il est à moi, Gilbert Bécaud, qui chante à l'Olympia. Jean-Michel Boris, vous qui avez la chance d'avoir côtoyé tous ces artistes, d'être dans les coulisses avec eux, il était comment Gilbert Bécaud avant d'entrer sur scène ?
Un petit peu stressé, mais il compensait ce stress par la cigarette qui était vraiment présente. et malheureusement qui a causé finalement son décès. Et puis de temps en temps un petit whisky à la cour et au jardin, comme on
des
dit.
Des deux côtés de la Seine.
C'est ça, de chaque côté de la Seine, il y avait une jeune fille avec un verre de whisky et une cigarette allumée. Ouais. Et là, ça le déstressait. Mais bon, le stress existe, c'est normal, parce que c'est une salle difficile, enfin c'est un combat à chaque fois. Et vraiment, le stress disparaît avec ces deux arguments-là.
Et cette chanson, c'est « Il est à moi l'Olympia ». Il raconte vraiment son lien particulier avec cette
voilà,
salle.
Il avait vraiment, entre Bruno Cocatrix et lui, il y avait vraiment une réelle amitié. Gilbert est venu vraiment, je crois, plus de 33 fois à l'Olympia. Non, c'était vraiment un ami. Et d'ailleurs, il l'a prouvé parce que l'architecte qui a fait le nouvel Olympia, qui s'appelle Anthony Béchu, était un ami de Gilbert Bécaud. Et vraiment, Gilbert a parlé avec Béchu, il s'entretenait de la réalisation des travaux. Ouais. Ça l'intéressait énormément.
Jean-Michel Boris, est-ce que Gilbert Bécaud a eu la chance d'avoir des fauteuils cassés à l'Olympia pour lui? Parce que c'est quand même... ça a été la longue tradition, l'Olympia.
Mais bien sûr, c'était même le premier qui a fait ça, puisque quand Bécaud a fait son premier passage, je crois, c'était en 1955, à l'Olympia, il avait été déjà dans le spectacle d'ouverture. Mais en 1955, Bruno Cocatrix l'a pris comme vedette, et il a fait une matinée uniquement pour les jeunes. Et ben, il y avait dehors, je me rappelle, quand je suis arrivé pour voir ça, il y avait à peu près 3000 personnes au lieu de 2000 que contenait la salle. Et quand cette jeunesse est rentrée dans la salle, il est évident qu'ils sont rentrés un peu en se bousculant, en cassant les vitres. Ça a été un petit peu dur, hard, mais c'était pas méchant.
Mais ils sont si sensibles que ça, c'est le siège de l'Olympia.
Les fauteuils, justement, les fameux fauteuils de l'Olympia, mais il en a cassé quelques-uns ce jour-là.
Ouais, il paraît que le record du nombre de fauteuils cassés à l'Olympia, c'est un certain James Brown en 1966. Les trois premiers rangs avaient été complètement cassés. L'Olympia qui aurait pu fermer au début des années 60. Bruno Cocatrix est malade, la salle se vide. Qui va la sauver de la faillite? Réponse dans un court instant sur RTL.
Vous voyez, je suis très enrouée.
Ah oui, ça, je dois
dire. Et je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre.
RTL.
Vous êtes à Paris depuis 9 semaines, je crois.
Sidonie Bonnec.
C'est-à-dire à l'Olympia, vous voulez dire?
Depuis 9 semaines.
Oui.
Thomas Hugues.
Et c'est une chose assez rare. On va demander à Bruno Cocatrix. Bruno Cocatrix, s'il vous plaît. Voilà votre directeur.
Bonjour, mon petit Bruno.
Le directeur et sa vedette qui est là.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce directeur-là qui est là est un directeur comme j'ai jamais rencontré.
Très belle archive, Édith Piaf et Bruno Cocatrix qui discutent, interviewés par Pierre Tchernia. On est en avril 1958 et nous on est avec Jean-Michel Boris. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron de l'Olympia. Alors Piaf et Cocatrix, c'est une belle histoire. Que se passe-t-il 3 ans après cette interview? On est donc en 1961 et l'Olympia va mal. Pourquoi?
Oui, l'Olympia va mal parce qu'à un moment donné, Bruno Cocatrix était persuadé que Gilbert Bécaud, qui avait fait un passage quelques mois auparavant, allait revenir. Et Gilbert l'avait prévenu, il dit « Bruno, je ne serai pas là, je ne peux pas être là, je vais chanter pour la reine de Hollande ». Bon, pour lui, c'était un événement important. De toute façon, ne compte pas sur moi. Et Bruno, qui était persuadé qu'il allait arriver à expliquer à Gilbert qu'il fallait absolument qu'il revienne, eh bien, ma foi, le temps a passé, et puis on s'est retrouvés sans spectacle, et avec, à un moment donné, on a été obligés d'aller chercher un cirque dans le nord de la France.
L'Olympia ?
Cirque à l'Olympia.
C'est drôle,
et
ça.
Ce cirque, ça a été une véritable catastrophe. On est resté 3 semaines, il y avait 16 personnes à peu près dans la salle chaque jour, c'est-à-dire qu'on perdait des millions, qui se rajoutaient à ceux que nous n'avions plus déjà.
Est-ce que c'est Édith Piaf qui va sauver l'Olympia et de
et
quelle
alors,
manière
il y avait, naturellement, Bruno avait été malade, il n'en pouvait plus. Bon, tenir cet Olympia à bout de bras, c'était un exploit extraordinaire. Et il a téléphoné à Édith Piaf. et surtout à son manager qui s'appelait Lou Barrier, qui était vraiment un véritable ami, parce qu'Edith, elle était un peu hésitante, elle était perplexe. Et finalement, entre Lou Barrier et Bruno Coquatrix, ils sont arrivés à décider, Edith, de venir à l'Olympia, et bon, ben, ma foi, l'Olympia est reparti, a repris son souffle, est reparti. Ensuite, il y a eu Jacques Tati qui est venu, qui a fait un spectacle aussi par amitié, c'était le jour de fête à l'Olympia, et puis, ma foi, ben, l'Olympia est reparti, ne s'est plus jamais fermé.
Jean-Michel Brice, l'Olympia, c'est notamment cette façade reconnaissable entre toutes, avec ces grosses lettres rouges pour afficher le nom de la star ou du groupe qui y joue. Qui en a eu l'idée? Est-ce que c'est Bruno Coquatrix qui a créé ça?
Vous savez, ouais. Bruno Coquatrix, il fourmillait d'idées. Hein. Je vous signale, par exemple, que le tracé du haut d'Olympia, c'est Bruno qui en a eu l'idée. Et c'est le tracé autour de Paris. C'est une espèce d'octogone qui
symbolise Paris, en quelque sorte.
Donc, ouais. Il a dit, bon, on va faire ça. Donc, le haut de l'Olympia, c'est Bruno. Et ces lettres rouges, ben, j'y suis un petit peu pour quelque chose, mais Bruno m'a demandé, tu sais, on n'a pas assez de lumière devant la façade. Essaye, travaille avec Grosbois, qui était le régisseur général, pour qu'on ait une possibilité. On a trouvé ce système des lettres rouges qu'on change à chaque spectacle. Et je dois dire que c'est quand même beaucoup plus étincelant que les panneaux peints.
Moi, j'ai discuté de ça avec plusieurs artistes, et notamment avec l'humoriste Claudia Tagbo, qui me racontait que la première fois qu'elle a joué à l'Olympia, elle s'est levée à 5h du mat pour être à 6h devant la façade, pour voir les lettres mises en place. Et ça arrivait souvent, c'est quelque chose de particulier,
mais
la première à l'Olympia.
J'ai toujours entendu les artistes avoir vraiment l'envie de ces lettres rouges. Mmh. Et c'est vrai qu'à une époque, je faisais faire les photos de la façade avec ces lettres là, et puis je donnais la photo de temps en temps aux artistes qui me l'a demandé.
Jean-Michel Boris, les artistes qui viennent à l'Olympia parfois sont exigeants, souvent même, et c'est le propre aussi d'un artiste de talent. Par exemple, Michel Sardou, que demande-t-il quand il vient jouer pour plus de 5 mois à l'Olympia? On est en 1995.
Alors là, il fait effectivement 5 mois à l'Olympia, tous les jours, et vous savez, vous connaissez Michel, il a un sacré caractère, il est connu pour ça. Et le dernier jour, Michel m'a dit, tu sais Jean-Michel, je ne me suis ennuyé à aucun moment. C'était vraiment exceptionnel comme compliment.
Il avait exigé quelque chose pour son confort, par exemple.
Il avait souhaité que la loge dans laquelle il allait vivre pendant 5 mois, soit il puisse la changer. Ce qui était tout à fait normal. Alors, il a fait une loge magnifique.
Comment c'était décoré?
Il y avait du velours rouge partout. c'était très, très beau, très chaleureux, très sensuel. Voilà.
Jean-Michel Boris, vous avez vécu beaucoup de soirées historiques à l'Olympia. Il y a notamment ce concert de Jacques Brel, 6 octobre 1966.
Et le rideau se ferme sur Madeleine que chantait Jacques Brel. Nous sommes en coulisses maintenant. Le rideau s'ouvre à nouveau. Jacques, salut. Est-ce un faux rideau? Nous allons le savoir tous ensemble. Sur scène, une jeune fille arrive, qui embrasse Jacques. Jacques dégoulinant de sueur. Jacques qui a un petit paquet à la main maintenant que cette jeune fille lui a offert. On aura les détails tout à l'heure. Le rideau se ferme une nouvelle fois alors que Jacques salue. Ce reste la fin du tour de chant. Il va de l'autre côté de l'endroit où nous nous trouvons, des coulisses. Cette dernière de Jacques Brel, cette dernière représentation, peut-être sa dernière représentation à Paris.
Les adieux de Jacques Brel à l'Olympia, récit de l'intérieur à venir sur RTL. Et puis, Marc Lavoine va aussi nous raconter ses débuts dans cette salle de légende. Il n'a pas chanté tout de suite, vous verrez.
RTL.
En octobre 66, Jacques Brel avait effectivement décidé d'arrêter la scène où il était pourtant si brillant. Il avait fait ses adieux lors d'une grande tournée et surtout en restant à ce moment-là 3 semaines consécutives à l'Olympia.
C'est unique ça, j'ai jamais vu ça au
concert. Et la salle maintenant de l'Olympia est debout à 1 mètre de Jacques pour les premiers rangs qui serrent des mains.
La curiosité est un vilain défaut.
Et ça n'a pas de raison de s'arrêter, Bruno?
Ça n'a pas de raison de s'arrêter.
Aucune raison de s'arrêter.
Vous allez faire retard ce soir.
C'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête.
Sidonie Bonnec, Thomas Huck.
Personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. On raconte l'histoire de l'Olympia sur RTL dans la curiosité, 40 ans après la disparition de Bruno Cocatrix, avec celui qui lui a succédé, Jean-Michel Boris. Vous y étiez, ce public là qui ne veut pas voir partir Jacques Brel.
C'était un moment exceptionnel, quoi. Ça fait partie des très très grandes soirées de l'Olympia. C'est vrai que nous étions tous là autour de Brel, naturellement derrière le rideau rouge.
Mais ça dure combien de temps ce rappel? Parce que c'est
Il sort de scène, vous savez, il avait l'habitude de sortir de scène. Mmh. Il passait une fois la tête pour dire au revoir et puis après, il rentrait dans sa loge. Et là, il fait le même coup. Mais c'est vrai que là, le public, lui, ne bougeait pas. Ça durait une demi-heure. Et nous allions toutes les cinq minutes voir Jacques, que ce soit Charlie Marouani, que ce soit Bruno Cocatrix, que ce soit Patricia Cocatrix, sa fille, et moi-même. Dis donc, Jacques, tu veux pas revenir quand même ?
Pour chanter une nouvelle chanson, par exemple ?
Il était dans sa... Oui, non, ouais. Chanter une chanson, c'était hors de question.
D'accord.
Son tour de chant était terminé. Il était dans sa loge, en train de boire sa petite bière avec ses copains, en robe de chambre blanche. Et il avait donné le maximum, comme il faisait d'habitude. Enfin, au bout d'une demi-heure, avec tous les gens qui venaient autour de lui pour lui dire, Jacques, il faut venir les saluer, dire quelque chose, eh bien, bon, il est enfin repassé devant le rideau, naturellement, vous pouvez imaginer l'explosion de joie du public qui était là. Il y avait 80% de la salle qui était restée, indiscutablement. Ouais. Et, applaudissements, et puis, naturellement, à un moment donné, il dit, une phrase dont je ne me rappelle pas bien les termes, c'était « Ceci est le résultat de 15 ans d'amour ».
Oui, c'est ça.
Je crois que c'est ça, à peu près.
Je vous remercie, ça justifie 15 années d'amour.
Ça justifie 15 années d'amour. Et vraiment, nous, derrière, en coulisses, on était dans un état second, et de voir cet homme que nous aimions profondément et qui avait bouleversé le métier, partir, parce que nous savions absolument que lui, ses adieux seraient définitifs.
Alors, ces stars de la chanson française qui ont une relation particulière avec l'Olympia, il y en a beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce que nous raconte Sylvie Vertan, qui a partagé la scène avec les Beatles pendant un mois.
Vraiment, l'Olympia, c'est ma maison, quelque part. C'est la première scène que j'ai foulée. Tellement de moments extraordinaires, d'excitation, de peur, de succès, de cris. Et puis surtout, moi, je devais avoir 19 ans ou dans ces eaux-là. Puis c'était encore une idée de Bruno Cocatrix, qui avait décidé de composer un programme avec les numéro 1 anglais, numéro 1 français, numéro 1 américain. Il m'avait choisi pour représenter la France. Et ensuite, il y avait l'entracte et puis les Beatles. Et pendant ces 23 représentations, je me souviens qu'évidemment, on se retrouvait au bar de Mimi et puis des souvenirs uniques, mais on n'avait pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. On était heureux de chanter, et voilà. Mais Bruno était quelqu'un d'unique. On n'a pas de personnage comme lui. Il était bienveillant, il avait une culture incroyable, il avait vu tout le monde. Je pense très très souvent à lui.
Jean-Michel Boris, Sylvie Vartan qui rend hommage comme ça, c'est très émouvant à Bruno Cocatrix. Il avait du pif, il sentait bien son époque.
Oui, il la sentait bien, mais c'est vrai qu'il avait des favoris. C'est vrai que Johnny et Sylvie, pour lui, ça représentait des enfants.
Parce qu'il les a vus débuter, il les a lancés d'une certaine façon.
Et comme dit Sylvie, elle a débuté dans un spectacle, je ne me rappelle plus la vedette, et en tout cas, elle chantait Panne d'essence ou une chanson comme ça. Elle était toute jeune, elle avait 17 ou 18 ans. Mmh. D'ailleurs, entre Patricia Cocatrix et Sylvie Vartan, il y avait vraiment une réelle amitié.
Alors, on va maintenant écouter Marc Lavoine. Marc Lavoine qui a une histoire, un lien particulier avec l'Olympia. Écoutez bien.
Ben, le premier jour où je suis rentré, on m'a dit d'aller à la mezzanine à droite et j'ai placé pour la première fois pour le spectacle de Harry Belafonte. Et ça a été une grande aventure avec l'Olympia parce que j'ai vu se produire sur scène longtemps Charlotte Mabou, Peter Gabriel, au téléphone. Enfin, c'était vraiment un apprentissage. Gilbert Bécaud, etc. C'était extraordinaire. Ouais, donc pour un type de 17 ans, vendre des Esquimaux à Gérard Depardieu, c'était déjà entrer dans un autre monde, quoi. Pouvoir demander à Barbara si elle voulait que je l'aide. Et puis, surtout, la chance d'avoir pu assister avec l'autorisation d'ailleurs de Jean-Michel, de Paulette, de Patricia Cocatrix et aussi d'Yves Montand lui-même, de pouvoir assister tous les jours aux répétitions d'Yves Montand, assis au fond de la salle, et je le regardais tous les jours répéter. C'était vraiment, pour moi, des moments exceptionnels. J'ai vu aussi Aznavour, Beko le faire. C'est vraiment des moments où on peut voir des artistes qui viennent se remettre en jeu, remettre leur titre en jeu sur scène tous les soirs. Enfin, c'était dingue. J'ai vraiment vécu 3 ans exceptionnels.
Jean-Michel Boris, Marc Lavoine a donc été placeur, c'est ça, à l'Olympia. Alors, dans quel état il est le jour où il vient pour la première fois chanter sur scène avec tant de souvenirs?
Écoutez, nous, Marc, on a suivi sa carrière pratiquement, puisqu'on lui a fait faire un de ses premiers spectacles à La Cigale.
Ensuite, on l'a
repris à l'Olympia en vedette, comme on disait, une vedette américaine. Et puis ensuite, bon, il est venu en vedette. Je pense qu'à chaque fois, ça doit être une étape qui, pour Marc, devait compter énormément. Se retrouver dans la salle où il avait vécu en tant que placeur et se retrouver en vedette devant le rideau rouge avec le public debout pour l'accueillir. Je pense que ça doit être une émotion très, très particulière.
Jean-Michel Boris, Marc Lavoine, qui a un petit message pour vous.
Jean-Michel est avec vous, prenez-le dans vos bras pour moi, je le prends dans mes bras, je l'embrasse, je l'aime beaucoup, je lui dois beaucoup, à lui et à la famille de l'Olympia, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je l'embrasse et que je lui fais mes amitiés, évidemment.
Merci Marc.
Et merci à Marc Lavoine, merci également à Victor Porcher qui a réalisé cette interview très bien menée. On va continuer de raconter l'histoire de l'Olympia avec un jeune chanteur, une star qui n'était pas toujours à l'heure, une star qui se fait attendre, un certain Johnny Hallyday.
Et puis dans la seconde partie de la curiosité sur RTL, on va rechercher nos origines grâce au test ADN.
Jusqu'à 15h.
Pour la chanson suivante, j'ai besoin de toute une préparation.
Thomas Hugues.
L'Olympia est devenue l'une des scènes fétiches de Charles Aznavour.
Sidonie Bonnec.
Les premiers pas de Charles Aznavour sur cette scène, c'était en juin 1955.
J'ai pas eu l'impression d'un débutant, j'ai eu l'impression d'un homme qui avait déjà bon nombre d'années de métier.
Sur RTL.
Maintenant je suis prêt, donc tout ça c'était uniquement pour vous faire patienter. Je me voyais déjà.
Charles Aznavour à l'Olympia, toutes les plus grandes stars françaises et internationales sont passées par cette salle mythique. On est toujours avec Jean-Michel Boris, l'ancien directeur de l'Olympia. Je rappelle que vous y avez travaillé pendant près de 47 ans, 46 ans, entré comme machiniste avant de succéder à votre oncle Bruno Cocatrix. C'était il y a 40 ans, en 1979. On raconte ensemble maintenant, Jean-Michel, une dernière anecdote. Elle concerne Johnny Hallyday. On est au début des années 60, c'est un dimanche. Il y a plus de 2000 personnes dans la salle. Alors, comment ça se passait? Il y avait plusieurs représentations qui étaient prévues, c'est ça?
C'était hard, comme on dit. On avait une matinée à 14h30, avec donc la première partie. On commençait le spectacle avec la première partie, les attractions, les balais, tout ceci, cela. Et puis, l'entracte arrivait à peu près vers 1h15 après le début. Et en principe, il y avait un quart d'heure d'entracte, et notre ami Johnny Hallyday devait rentrer en scène. Mais le problème était que Johnny, il habitait la campagne, je ne sais plus dans quel endroit, et je ne le voyais toujours pas venir, j'avais pas de nouvelles, rien. Alors l'inquiétude grimpait, parce que de tenir 2000 personnes dans la salle à l'entracte, leur faire subir un entracte qui aurait duré beaucoup plus, ça m'inquiétait.
Pour les fauteuils de l'Olympia, c'était très dangereux, ça. Pour les fauteuils de l'Olympia, c'était très dangereux.
Les fauteuils de l'Olympia n'auraient pas résisté. Et j'étais dans la rue, j'attendais, puisque la première séance devait se terminer vers 5h, et la deuxième devait débuter à 5h30, 17h30. Et puis il y avait la soirée à 21h.
Ah oui, il y avait trois concerts de prévu.
C'était quand même un parcours du combattant. Et le père Johnny Hallyday, tout d'un coup, je vois une voiture de sport qui arrive, découverte, et il montre Johnny, beau comme un dieu, naturellement. Je lui dis, Johnny, vite, dépêche-toi. T'inquiète pas, sois détendu. Lui, il avait un sourire comme ça. Le sourire de Johnny, ça a été à tomber. On ne pouvait rien faire. Il était tellement sûr, il savait parfaitement qu'il allait rentrer sur scène et que la foule, il la prendrait dans sa main, il en ferait ce qu'il voulait. Donc ça ne l'inquiétait pas du tout. Mais moi, par contre, j'avais peur pour mes fameux fauteuils.
Merci beaucoup, Jean-Michel
Merci
Boris.
Infiniment.
C'était un grand bonheur d'avoir partagé vos souvenirs de l'Olympia et rendu hommage hommage à Bruno Cocatrix, disparu il y a 40 ans, rendu hommage aussi à sa famille, évidemment, à travers vous. Merci beaucoup.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.